Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, quatre questions. À quoi bon exister? Se marier rend-il plus heureux? Comment tromper le désespoir? Et faut-il croire en Dieu? La réponse à ces questions, c'est tous les matins à 10h avec Søren Kierkegaard, le chevalier danois qui pensait mourir à 33 ans et demeurer à jamais incompris. Pourtant ce matin, c'est une question simple mais redoutable que nous allons poser avec lui. Se marier rend-il heureux? Bonjour Philippe Chevalier.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci beaucoup.
Il faut savoir que Kierkegaard s'est vraiment posé la question.
Je pense que Kierkegaard se méfie de toute forme de contentement qui pourrait interrompre le mouvement même de l'existence. Et donc la question, il va la retourner, est-ce que le mariage a véritablement valeur pour une existence et pour une existence authentique ?
Rappelons que Søren Kierkegaard est né en 1813 à Copenhague. Il reçoit une éducation chrétienne triste et austère, dit-il, qui fut à vue humaine une folie, selon ses dires. En mai 1837, il rencontre Régine, dont il tombe amoureux. Elle n'a que 17 ans. Il pressent la rupture inéluctable, mais la demande en mariage en juillet 1840. Un an plus tard, sans donner de raison, il rompt brutalement ses fiançailles, scellant par là son propre destin, à la fois maudit et héroïque.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais.
Alors comment un homme qui put rompre ses fiançailles sur un coup de tête, ses fiançailles avec une femme qu'il aimait, nous dit-il, peut-il par ailleurs être capable d'écrire des pages sublimes sur ce qu'est le mariage, ce qu'est l'amour, à l'image de la chanson des vieux amants de Jacques Brel qui laisse penser qu'il y a une vraie expérience à laquelle Jacques Brel peut se référer. Quand on lit Kierkegaard, on a la même impression alors qu'il n'en est rien, Philippe Chevalier.
C'est peut-être justement en ne se mariant pas qu'il a peut-être perçu au moins l'une des significations les plus profondes du mariage. Et je pense de toute façon tout philosophe est philosophe du général, de la généralité. Et donc le fait que dans son existence personnelle, il ait choisi de rompre ses fiançailles avec Régine, comme vous l'avez rappelé, cela ne l'empêche pas de s'approprier d'autres possibilités d'existence. Et la philosophie de Kierkegaard, c'est vraiment une investigation, une exploration de la très grande richesse de figures possible de l'existence, de notre existence, qu'il va essayer d'ordonner en les plaçant à l'intérieur de certains stades qui constituent une manière d'accentuer notre existence de manière à la rendre la plus passionnée et la plus proche de la vérité, ou d'au moins de ce que l'on espère qu'elle l'est.
C'est-à-dire que pour Kierkegaard, passion et vérité ne sont pas incompatibles.
Pas du tout. Au contraire, je crois qu'il n'y a pas de vérité pour un être existant sans cet effort d'appropriation passionnée. Le sommet de l'existence pour Kierkegaard, c'est véritablement la passion, qui est d'abord une passion de la réflexion, mais qui d'une certaine manière reprend la passion sensible. Et c'est pour ça que Kierkegaard va toujours enraciner sa pensée de l'existence dans la vie érotique, l'éros, notre sensibilité. Et c'est à partir de là, ça lui fournit d'une certaine manière un modèle pour penser ensuite l'existence la plus intense, la plus exposée qui soit, qui est l'existence qui vit une passion, la passion de sa réflexion, quand elle essaie justement de s'approprier une vérité.
Est-ce que la passion, donc vous avez dit qu'elle n'était pas incompatible avec la vérité, est-ce qu'elle est compatible avec le désir infini qui caractérise le séducteur, ce que Kierkegaard appelle le stade esthétique, c'est-à-dire le moment où l'homme ou lui-même se disperse dans une infinité de désirs, c'est Don Juan, et qui, par définition, ne peut pas rencontrer de satisfaction. Pour pouvoir continuer à désirer, il faut toujours qu'il y ait un manque. Est-ce qu'on parle de passion à cet endroit ?
On peut parler de passion sensible, mais c'est une passion sensible qui est dès le départ troublée par la réflexion. Et vous avez parlé de Johannes le séducteur, donc on a effectivement dans l'un des ouvrages pseudonymes de Kierkegaard ou bien, un célèbre passage qui s'appelle Le journal du séducteur, qui raconte le récit de la conquête d'une jeune femme par un certain Johannes. Et Johannes, sa passion sensible, est dès le départ troublée par sa réflexion. C'est-à-dire finalement, c'est un homme plus abstrait que charnel. Et la passion sensible, dans sa forme la plus immédiate, on va plutôt la trouver du côté de Don Juan. De Don Juan qui est d'abord, pour Kierkegaard, il faut le rappeler, un opéra. C'est-à-dire que Don Juan n'est que musique. Et finalement, la seule forme adéquate pour exprimer l'immédiateté, c'est la musique. C'est-à-dire que Don Juan n'a pas encore conscience de lui-même. Il n'a pas conscience de son rapport au monde. Avec Johannes, on va dire, cette déception face à l'objet de la passion, c'est-à-dire, c'est vrai, comme vous l'avez bien dit, il suffit de posséder une chose du monde, une chose finie, pour en être déçu. Elle n'est pas à la hauteur de tout ce qu'on a pu y investir, de tout ce qu'on a pu en rêver. Eh bien, chez Johannes, finalement, la question de la jouissance va glisser vers la question de la séduction. C'est-à-dire que sa passion sensible va d'abord devenir un jeu de l'esprit avec autrui, un jeu pour conquérir autrui. Et finalement, ce dont jouit Johannes, il ne jouit pas tant de la personne qu'il veut conquérir, mais il jouit en fait de lui-même, c'est-à-dire qu'il se regarde lui-même. C'est pour ça qu'il raconte chaque étape de sa conquête et chaque moyen qu'il met en œuvre pour conquérir la Cordélia, c'est son prénom. C'est justement parce que finalement, la jouissance de Johannes, c'est de se regarder séduire.
Mais jouit-il vraiment ? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut dire que Don Juan comme Johannes, finalement, sont des jouisseurs, ou au contraire, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à jouir que sans cesse ils multiplient les conquêtes ?
Il y a peu de jouissance chez Kierkegaard, et peut-être, je dirais de manière un peu provocante, peut-être que dans nos existences, finalement, il y a très peu de jouissance. Parce que la seule jouissance pleine et immédiate, c'est celle de l'immédiateté, c'est à la limite, c'est celle de l'enfance. Mais très vite, l'homme est en réflexion. La réflexion, c'est-à-dire le doute, l'inquiétude et une forme de mélancolie va s'insinuer. Et Kierkegaard montre bien que tout le stade de l'esthétique, qu'on présente parfois un peu trop rapidement comme le stade du plaisir sensible, en fait est d'abord le stade de la mélancolie, c'est-à-dire le stade de la déception par rapport aux objets que l'on a consommés, et surtout déception par rapport à soi-même, parce qu'on n'a pas le courage de poser un véritable choix, un choix qui va nous lier à un certain mode d'existence. Et donc on va rester finalement dans une réflexion indéfinie qui va être soit celle des stratégies de séduction infinie, ou soit celle du mélancolique, c'est-à-dire celui qui, comme le jeune homme qui va renoncer à se fiancer, il renonce à l'objet de son amour, mais sans rien faire d'autre, sans rien accomplir d'autre, que s'enfermer lui-même dans une espèce de mélancolie où son amour n'est plus rien d'autre que un souvenir. Son amour n'est plus que le souvenir de ce qui un jour l'a ému.
Et il y a une forme d'autocomplaisance très forte aussi dans ce geste qui va l'accompagner toute sa vie. Il revient beaucoup sur cette décision de rompre avec Régine. Il place cet événement comme un moment fondateur de son existence, qui pour lui est souvent l'occasion, parfois, jamais de regretter, mais parfois d'exacerber la mélancolie qui l'accompagne tout le temps. Il dit que la mélancolie est son amie, sa confidente, mais aussi de se valoriser en disant ce geste-là, il y a quelque chose presque d'héroïque à rompre avec la personne qu'on aime. Et le journal du séducteur dont vous parliez, il dit ce journal a été écrit à cause d'elle, pour la dégoûter. On est là même dans un autre stade, si j'ose dire,
celui de la
perversion du manipulateur.
Alors en fait, si Kierkegaard cherchait à dégoûter la femme qu'il a aimée, c'est au contraire pour permettre à cette femme aimée de se libérer que de lui-même.
C'est ce qu'il dit.
Parce qu'il aurait continué effectivement à l'aimer, et si elle avait cru, si elle avait continué à croire en son amour, elle aurait cherché désespérément à rendre possible un mariage que Kierkegaard, au nom de l'éthique, au nom d'un certain respect d'autrui, justement, au nom de cette éthique, il a considéré que ce mariage n'était pas possible. C'est-à-dire qu'il allait faire le malheur de la femme qu'il aimait. Et c'est là où la question éthique commence à se poser, dans cette question de la responsabilité pour autrui. Ce que Kierkegaard nous dit très bien dans son journal, on se marie beaucoup sur des petits arrangements. Mais si on se marie parce qu'on considère que le mariage a valeur pour son existence, qu'on va y mettre une passion infinie, qu'on va véritablement décider de vivre son existence sous la catégorie du choix, puisqu'on choisit absolument, voilà, et de tenir à ce choix qui est celui du mariage, et de rester marié, et de rester fidèle à cet engagement, eh bien alors, nous basculons dans tout à fait autre chose qu'est le stade éthique.
Alors on ne choisit pas de tomber amoureux, mais on choisit de se marier. Et dans ce choix, cette différence, cette distinction, se situe le basculement en effet de l'esthétique vers l'éthique. Avant d'en arriver à cette dimension éthique que constitue le mariage à part entière pour Kierkegaard, écoutons un extrait du journal du séducteur. On est là aussi pour écouter la plume de Kierkegaard, interprétée ici par Yvan Moran.
Mes yeux ne se lasseront jamais d'effleurer du regard ces richesses externes, ces émanations propagées par la beauté féminine. Chaque élément en particulier en possède une petite parcelle, tout en étant complet en soi-même, heureux, joyeux, beau. Chacun a le sien, le gai sourire, le regard espiègle, les yeux brûlants de désir, la tête boudeuse, l'esprit folâtre, la douce mélancolie, l'intuition profonde, l'humeur sombre et fatidique, la nostalgie terrestre, les émotions non avouées, les sourcils qui parlent, les lèvres interrogatives, le front plein de mystères, les boucles séduisantes, les cils qui cachent le regard, la fierté divine, la chasteté terrestre, la pureté angélique, la rougeur insondable, les pas légers, le balancement gracieux, la tenue langoureuse, la rêverie pleine d'impatience, les sourires inexpliqués, la taille svelte, les formes douces, la gorge opulente, les hanches bien cambrées, le petit pied, la main mignonne. Chacun a le sien, et l'une a ce que l'autre ne possède pas. Et quand j'ai vu, et revu, et contemplé encore les richesses de ce monde. Quand j'ai souri, soupiré, flatté, menacé, désiré, tenté, espéré, gagné, perdu, je ferme l'éventail, et ce qui était épars se rassemble en une seule chose, les parties se rassemblent en un ensemble. Mon âme alors se réjouit, mon cœur se met à battre, et la passion s'enflamme. C'est cette jeune fille-là, la seule du monde entier, qui doit être à moi, et qui le sera.
Écoutez le Don Giovanni de Mozart qui va nous accompagner, Mozart, hein, toute cette émission, aux côtés de Søren Kierkegaard qui lui nous accompagne cette semaine. Se marier rend-il heureux? C'est la question que nous posons à Kierkegaard car lui-même a écrit de nombreuses pages sur le sujet. Et pour en parler avec nous en studio sur France Culture, les chemins de la philosophie, le philosophe Philippe Chevalier. Je ferme l'éventail et ce qui était épars se rassemble en une seule chose, les parties se rassemblent en un ensemble. Mon âme alors se réjouit, mon cœur se met à battre et la passion s'enflamme. Dans ces lignes, qui sont celles du séducteur, l'équivalent de Don Juan, on entend déjà la transition qui va pouvoir conduire au choix éthique, qui est le fait de se marier, à savoir cette unité que l'on recherche, qui vient rassembler une dispersion de possibles qui caractérise l'éclatement de la subjectivité à l'état du désir enflammé.
Il y a un point très important dans le texte que vous avez choisi, c'est justement ces sept jeunes filles-là, cette jeune femme-là. Et c'est vrai qu'on est déjà dans l'élection, c'est l'élu en fait. Johannes va mettre, je crois, 6 mois pour conquérir le cœur de Cordélia. Sauf que la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle dise oui, c'est pas tant de consommer l'amour, c'est de la vaincre en fait. Mais c'est vrai qu'avant cette figure de Johannes, on va dire que Johannes est un peu une figure limite, comme vous le dites très bien. Et avant cela, il y a beaucoup d'autres figures. On dit souvent que le stade esthétique est un stade très simple, parce que ça serait celui de l'immédiateté, alors que derrière, en fait, la figure de Johannes, il y a d'autres figures de passion sensible qui, elles, ne font pas du tout la distinction entre une personne et une autre. C'est le cas en particulier du page de Figaro, autre opéra, qui, justement, ne fait pas distinction entre le monde et lui-même, entre une jeune femme, une vieille femme. Il les aime toutes et, finalement, son plaisir est complètement écrasé par la plénitude de ce qui lui est offert. Alors que cette notion véritablement de l'individualité et le choix d'un objet particulier, c'est déjà un premier mouvement de la passion, une première transformation de la passion qui va s'exprimer d'ailleurs pour Kierkegaard, c'est pas tant dans le Don Juan que dans la Flûte enchantée, que des objets de passion vont commencer à se succéder sur la scène du monde. Et Don Juan, finalement, c'est la rencontre à la fois la plénitude de l'instant qu'on avait dans Figaro, avec la multiplicité des objets possibles qu'on avait dans la Flûte enchantée. Et avec Johannes, tout ça va être repris dans cette, on va dire, dans cette obsession, parce que c'est véritablement une obsession, une idée fixe. Et il y a quelque chose presque d'une parodie de la philosophie dans ce Johannes, qui est un, comme vous l'avez bien dit, qui est un cérébral, qui est un homme, qui est un réflexif,
mais oui, vous parlez
qui
de
se
passion.
Perd dans ses réflexions, en
mais
fait.
Oui, c'est ça, le livre, le journal du séducteur, est plutôt glaçant. Parce qu'on n'y trouve pas la plénitude et la jouissance dont nous parlons et que l'on pourrait attendre. Au contraire, on y trouve une espèce de calcul cérébral dont la seule passion serait peut-être l'angoisse qu'il essaye de combler.
Et je pense que la forme de parodie, c'est Kierkegaard va dans toute sa philosophie toujours se battre contre toutes les tentatives de philosophes pour réconcilier la pensée et l'être. Et Kierkegaard dit dans son journal, il a un passage qui est merveilleux, il dit « La seule adéquation possible dans l'existence entre la pensée et l'être, c'est quand un homme a une idée fixe. » Et Johannes, c'est l'homme de l'idée fixe. Donc d'une certaine manière, c'est le philosophe abstrait. C'est celui qui croit à travers son idée fixe, puisque c'est sa Cordélia qui l'occupe du matin au soir, qui réconcilie de manière complètement abstraite la pensée et l'être.
Donc l'autre est complètement secondaire dans l'histoire.
L'autre est complètement
secondaire. La femme, l'homme, peu importe.
C'est le
réceptacle d'un désir quoi, de soi finalement.
Et la femme aimée n'est que l'occasion de mettre en œuvre tous ces jeux, en fait, toutes ces stratégies extrêmement fines, qui sont pas loin, qui sont pas éloignées d'ailleurs, pour Kierkegaard, des stratégies de la philosophie pour penser ce qui n'est pas pensable. Il y a véritablement, je pense que Johannes le séducteur est une espèce de parodie de l'idéalisme allemand.
Il le revendique, je veux dire, cette lecture que vous proposez est assumée par lui.
C'est une hypothèse.
Qui est tout à fait intéressante, il faudra qu'on y revienne et qu'on la creuse. Qu'est-ce qui, dans ce stade-là, parce qu'on emploie souvent le terme de stade pour évoquer on parle des trois stades, j'ai Kierkegaard, esthétique, éthique et religieux, on a parlé du stade religieux, notamment lundi dernier. Oui. Qu'est-ce qui, dans ce journal du séducteur, chez Don Juan, peut conduire l'individu en question à renoncer à cette multiplicité des désirs et à déposer son choix sur une seule personne, à s'engager, à se marier, pour le dire clairement?
Un acte de la volonté. Un choix qui va transformer intégralement notre existence. C'est-à-dire, c'est de l'ordre du sceau. Dans la nature, il n'y a jamais de saut qualitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a que des évolutions, alors que dans notre existence, il peut y avoir des sauts. Et ça, je pense que c'est une affirmation difficile à comprendre et qui est un apport tout à fait neuf de Kierkegaard à la pensée de l'existence. C'est se dire que notre existence n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'il y a effectivement de la nouveauté à certains moments qui va surgir et qui va faire qu'on passe à autre chose, hein, que les changements dans nos vies, d'ailleurs je trouve que c'est quelque chose qui peut nous inspirer beaucoup, les changements dans nos vies ne sont pas que quantitatifs. Je gagne un peu mieux ma vie, j'ai un travail qui me plaît un peu plus, notre couple va mieux, tout ça ce sont des changements d'ordre quantitatif. Maintenant, il revient au sujet, à l'individu, de faire un saut qualitatif. Et le saut, cette métaphore physique, sportive, dit bien ce qu'elle est. C'est-à-dire, on passe à autre chose. Et par un acte de la volonté, qui va être finalement le premier véritable choix par lequel l'individu va affirmer qu'il est responsable de son existence, et ben c'est par là qu'à partir du moment où on décide que sa vie est une vie responsable, qu'on est responsable de soi-même, qu'on est responsable de ce que va devenir sa vie, qu'on passe dans le champ de la responsabilité, c'est-à-dire dans le champ de l'éthique. Et le mariage va devenir l'une des, on va dire, le premier modèle qui va permettre à Kierkegaard de penser l'éthique, parce que c'est une manière de reprendre autrement l'éros. C'est le désir qui va être pris, cette fois-ci, dans la forme du temps.
Est-ce que c'est une manière de conjurer la lassitude qui pourrait s'installer à force de répétition du même avec différentes personnes? Est-ce qu'on pourrait le voir ainsi?
La tentation ou le risque de la lassitude, je crois qu'il est partout. Il est même après le saut.
Oui, et ça d'ailleurs, Kierkegaard en parle extrêmement bien. C'est vraiment le penseur de cette lassitude tacite que nous vivons tous.
Il y a au stade esthétique la figure du mélancolique qui ne fait plus rien, justement, parce qu'il s'est définitivement lassé de toute tentative pour profiter du monde. Et finalement, c'est la figure de l'homme qui va désespérer et s'enfermer dans sa propre tristesse et dans le souvenir de ce qui s'est une fois passé dans sa vie. Donc, la lassitude est au stade de l'esthétique, comme on va la retrouver après, puisque la détermination fondamentale de l'existence, de notre existence, qui fait justement qu'il n'y a pas d'identité entre la pensée et l'être, c'est justement le temps. Et le temps se réfléchit dans nos vies. Enfin, l'une des possibilités, une des manières dont le temps peut se réfléchir dans notre vie, c'est celui de la répétition du même, de la lassitude, de ce qui revient toujours à lui-même.
Il y a des pages extrêmement belles sur les vertus de la répétition qui, selon Kierkegaard, est finalement moins dangereuse que l'attrait de la nouveauté. Il dit finalement, c'est par la répétition qu'on ne s'ennuie jamais et c'est en cherchant sans cesse le nouveau qu'au contraire nous nous lassons, ce qui est très surprenant et très juste, hein, semble-t-il. Kierkegaard est vraiment un très fin observateur de ces petites choses qui constituent une passion, un sentiment et le choix de vivre avec quelqu'un. Il faut quand même y venir, Philippe Chevalier, c'est la question. Est-ce que se marier rend-il plus heureux? Dans le même ouvrage, ou bien, traduit parfois par l'alternative, dans lequel on trouve le journal du séducteur, on trouve aussi plus tard, eh bien, les lettres de l'homme marié, qui répond au séducteur dont on a entendu, hein, la parole avant, donc le fameux Johannes. Ici, donc, le narrateur s'interroge sur la compatibilité entre l'amour, auquel il n'a pas du tout renoncé, puisque vous l'avez dit, Kierkegaard est aussi le penseur de la passion, donc la passion est présente dans le mariage, et le devoir. Comment est-ce que l'on peut aimer par devoir? Est-ce que cette formule a un sens? Écoutons sa réponse, puisque c'est finalement la question que soulève toute forme de mariage.
Imagine un homme qui s'est marié sans jamais s'être bien rendu compte de la tâche éthique que comporte le mariage. Il aime avec toute la passion de la jeunesse, mais tout à coup, une cause extérieure le plonge dans le doute. Il se demande si celle qu'il aime, mais à qui encore il est lié par le lien du devoir, ne pourrait pas croire qu'il l'aime uniquement par devoir. Le devoir a l'air d'être en opposition avec l'amour. Mais il aime, et son amour est vraiment pour lui le bien suprême. Il s'applique donc à vaincre cet ennemi. Ainsi, il veut aimer sa femme non parce que le devoir lui commande. Il veut l'aimer de toute son âme, en lui vouant toute sa force et toutes ses facultés. Il veut l'aimer même au moment où il se pourrait que le devoir l'autorisât à la liberté. Tu vois son casse-tête. Que fait-il? Il l'aime de toute son âme. Mais c'est justement ce qu'enjoint le devoir. Car ne nous laissons pas troubler par ceux pour qui le devoir n'est dans le mariage qu'un recueil de formules de cérémonie. Le devoir est simplement un. Il consiste à aimer en vérité dans le mouvement intérieur du cœur. Il est aussi protéiforme que l'amour. Il déclare toutes choses saintes et bonnes quand elles viennent de l'amour. Tu vois donc que notre homme a pris une fausse position. Quand il veut faire plus que n'enjoint le devoir, il ne fait ni plus ni moins qu'obéir au devoir. Si le devoir est dur, eh bien l'amour l'exprime, le réalise et accomplit par là plus que le devoir. Si l'amour est en train de devenir faible au point de ne plus pouvoir se maintenir, le devoir lui pose alors des limites.
Le mariage serait donc la preuve de la compatibilité entre l'amour et le devoir. C'est Kierkegaard qui le dit. Eh bien, application pratique. Philippe Chevalier, voici un extrait très concret. C'est « Prête-toi ta main », le film d'Éric Lartigot.
Marie, mon linge repassé, tu l'as mis où ?
J'ai envie de te répondre dans ton cul. Il n'y a pas marqué boniche, là, maintenant.
Calme.
Non, non, pas calme, sûrement pas, non. Marre de m'occuper de ton linge, de ton repassage, de tes merdes là. Comme si j'avais pas assez de boulot à la maison avec l'autre qu'on fout pas une ramée.
Bah c'est vrai que t'es un assisté complet.
Bon, j'aide quand même, hein, moi.
On parle de lui, cela. Bah, c'est vrai, on est toutes là à régler les problèmes de Pipou. On fait les courses de Pipou, le repassage de Pipou, la bouffe aussi de Pipou. C'est bon ! Qu'ils grandissent un peu maintenant.
Ah ouais, mais il faut déjà qu'on arrête de l'appeler Pipou.
Maxine, te mêle pas de ça, tu es trop jeune.
Elle a pas tort, là.
Je suis pas ta femme, Louis. Je suis ta sœur.
Nous ne sommes pas ta femme.
C'est vrai, Pipou, à 44 ans, il est temps que tu trouves une petite femme, maintenant, qui va s'occuper de tout ça.
Oui. Non, mais attendez, d'abord, j'ai 43 ans, et qu'est-ce qui vous prend à partir en vrille, comme ça, d'un coup, là ?
Mais parce que, à 43 ans, on doit être capable de régler son linge, son loyer, ses problèmes, ses merdes, la vie, quoi !
Mais non, mais Louis, il est juste pas du tout prêt à assumer une femme, il est complètement immature.
Attends, de qu'est-ce que tu parles de maturité, toi ? T'as même pas 20 ans, là.
Ah ouais, bah beaucoup plus que toi, qui en a 45, déjà.
43 !
Bah que c'est pareil.
Juste, je lui demande un truc, elle me dit dans ton cul, non, mais ça va.
Avec sa peau et son cœur. Mais elle a raison. Ce n'est plus à nous de nous occuper de toi, Louis. Maintenant, c'est le travail d'une femme. De ta femme. Bon, ordre du jour. Le mariage de Louis, priorité de l'année. T'es pour ? Tu parles ?
Quoi ?
Adopté.
Bah voilà.
Alors voilà qui dissuade immédiatement de toute envie de se marier. Dans cet extrait, donc « Prête-moi ta main », le film qui met en scène Alain Chabat, Louis, un quadragénaire qui vit au milieu de sa mère et de ses cinq sœurs. Donc les six femmes forment un clan, elle s'appelle le G7 d'ailleurs, hein, et elle, qui prend toutes les décisions. On décide qu'il est temps que l'homme se marie parce qu'il le faut, parce que c'est un signe de maturité. C'est l'expression de ce qu'on pourrait appeler une convention sociale, qui prend la forme souvent d'une pression sociale d'ailleurs. Et se marier parce qu'il le faut, c'est finalement une autre manière de dire que c'est notre devoir de se marier. Il le faut, c'est bien. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut entendre ce que dit Kierkegaard lorsqu'il dit que le mariage est un devoir compatible avec l'amour, et surtout que c'est le début d'une vie éthique, plus raisonnable et selon la loi? Parce que si c'est ça, ça fait pas très envie, Philippe Chevalier.
Vous avez bien raison. Je pense qu'il y a unité du devoir et de l'amour, justement, si ce devoir n'est pas pensé de manière extérieure. Et l'amour chez Kierkegaard, il ne faut jamais oublier que c'est une catégorie de la subjectivité. C'est même dans l'amour que la subjectivité va s'éveiller à elle-même. Donc on reste toujours sur ce plan-là, sur le plan qui n'est pas celui de l'objectivité, qui est celui à la fois du savoir et des conventions. Donc il faut véritablement que ça soit de l'amour lui-même. C'est l'amour lui-même qui veut durer, c'est l'amour lui-même qui veut tenir, c'est l'amour lui-même qui veut rester fidèle à ce qu'il est lui-même. Et donc seul le devoir découvert à partir de l'amour, pour le stade éthique, est véritablement devoir qui a valeur pour le sujet. Tout le reste n'étant que convention, et Kierkegaard insiste beaucoup sur justement un mariage qui n'est qu'une une plaisanterie sociale, une convention. Et le discours de l'assesseur, il va paradoxalement choisir pour défendre le mariage la figure la plus bourgeoise qu'on puisse imaginer, un magistrat de Copenhague.
Le juge Wilhelm.
Le juge Wilhelm, voilà. Donc en plus, il a parfaitement choisi le métier. Vous voyez, on est vraiment dans un film de Chabrol. Et pour autant, quand il va donner la plume au juge Wilhelm, donc essayant lui-même, qui ne s'est pas marié, de comprendre le sens le plus élevé qui soit du mariage, le juge Wilhelm va nous décrire véritablement une odyssée de l'existence individuelle. On peut regretter même que la femme du juge soit si peu présente dans cette apologie du mariage. Mais tout y est de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que de l'amour qui est à la fois le même et qui est renouvelé tous les matins, de l'épouse, la seule fois qu'elle apparaît en fait dans le long discours de l'assesseur Willem, c'est l'assesseur Willem qui nous dit que sa femme est plus belle le soir que le matin. Et donc, c'est une odyssée de la vie individuelle qui fait que derrière toutes les conventions, on découvre la possibilité, effectivement, d'une forme de vie où désir et devoir se rejoignent, l'intérieur et l'extérieur également se rejoignent, et ce qui va poser question, d'ailleurs, c'est-à-dire cette vision irénique, cette vision si belle du mariage par l'assesseur Willem, est-ce que c'est un idéal ? Est-ce bien raisonnable ? Est-ce que c'est tenable, véritablement ? Est-ce que l'individu, est-ce que dans notre existence, nous n'allons pas néanmoins achoper à certaines difficultés qui ne sont pas les difficultés ménagères dont il était question dans le film, qui sont des difficultés véritablement de notre existence, au sens le plus fort du terme.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire maintenir la passion dans notre existence. Kierkegaard va reprendre quelques années après Ou bien, qui est donc un ouvrage pseudonyme. Il y a cette très longue méditation du juge Willem. Il va reprendre quelques années plus tard dans un ouvrage qui s'appelle Le Postscriptum aux miettes philosophiques, qui est un ouvrage très impressionnant et très important dans l'histoire de la philosophie. Il va reprendre le dossier de l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique ? Quel est le devoir d'un homme, voilà, dans son existence, et il va pratiquement pas parler du mariage. Alors même que le mariage était le modèle par excellence de l'éthique, il n'en sera pratiquement plus question dans une vision éthique qui va de plus en plus s'intérioriser. Et tout va être mis, l'accent va être mis, finalement, sur le devenir soi-même, l'effort infini d'un individu pour s'approprier une vérité, qui est une vérité pour son existence, qui n'est pas une vérité de l'ordre du savoir, mais une vérité qui est une vérité existentielle. Et donc, l'éthique va s'intérioriser. Et le seul moment où, dans le post-scriptum au miette philosophique, il va être question du mariage, c'est pour émettre un petit doute à ce qu'on a entendu dans cette adéquation parfaite entre le devoir et l'amour. Et ce petit doute, c'est justement que, finalement, dans le mariage, la passion n'est pas à son maximum. Je parle bien entendu ici de la passion de la réflexion. On n'est plus dans la passion sensible, mais on est dans la passion de la réflexion. La passion n'est plus à son maximum. La passion dans une existence n'atteint son maximum quand elle s'engage passionnément pour quelque chose qu'elle n'a pas en face d'elle, pour quelque chose qui ne lui répond pas, quelque chose qui ne lui parle pas, quelque chose au sujet de laquelle elle n'a aucune assurance. Et il y a cette phrase merveilleuse dans le post-scriptum. La difficulté, c'est que dans le mariage, vous êtes quand même face à une épouse qui vous dit oui ou qui vous dit non.
La difficulté, c'est qu'on épouse toujours quelqu'un. Oui, ça c'est sûr.
Voilà, et qui va apporter à l'existence individuelle une forme de repos, une forme de réconciliation. C'est cette réunion du devoir et de l'amour, mais en même temps, qui risque d'interrompre. Et je crois que, effectivement, c'est aussi une question qui se pose, qui est véritablement une question de la valeur du mariage dans une existence individuelle. C'est le danger, justement, de recevoir d'ailleurs que de soi-même une certitude que l'on s'est installé dans un état de vie qui est le point d'aboutissement de notre existence. Et l'acquiescement, c'est vrai que la personne aimée qui vous dit oui, c'est une forme de repos par rapport à la passion amoureuse et par rapport même à la passion du juge Willem, toute la passion qu'il peut engager dans son foyer. Et le risque, c'est justement d'interrompre ce mouvement infini de l'existence qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrête à aucun résultat, qui n'a jamais aucune certitude. Et Kierkegaard nous dit toujours que sa tâche de philosophe, c'est pas de rendre les choses plus faciles, c'est de les rendre plus difficiles. Finalement, alors, à quelles conditions notre existence peut-elle être encore plus affûtée, encore plus passionnée?
Mais quiconque s'est marié sait bien que ce n'est pas une solution de facilité, et que les difficultés que recherche Kierkegaard, qui lui font finalement dépasser même l'option du mariage pour aller ailleurs, on va voir où dans un instant, sont bien réels au sein du mariage. Quelle place accorde-t-il à l'autre? En fait, c'est ça la question, parce que d'un côté, il dit explique le problème du mariage, c'est qu'il y a une autre personne à qui on demande de jouer, d'endosser des responsabilités qui sont trop peut-être lourdes pour nous, donc ça nous soulage sur le moment, nous sommes deux, la personne dit oui, non, il y a un dialogue possible qui nous repose de nous-mêmes. Mais d'un autre côté, il dit bien, voilà, le problème c'est que cette personne, ça n'est pas nous, donc c'est une manière de fuir aussi sa responsabilité. Or, de deux choses l'une, soit la personne est bien présente, et auquel cas c'est l'expérience d'une altérité qui alors redouble, multiplie la difficulté que nous avons à vivre seuls, c'est-à-dire qu'une autre personne bien souvent nous renvoie une sorte de miroir qui nous plonge dans un gouffre encore plus douloureux que lorsque nous étions seuls, soit cette personne est absente, auquel cas bah alors le problème est le même.
On achoppe, effectivement, c'est-à-dire, je pense, dans toute la méditation du juge Willem, on l'a déjà dit, c'est-à-dire que l'épouse est complètement absente. Et le mariage tel qu'il est pensé par le juge Willem, c'est d'abord une catégorie, une décision de la subjectivité, et c'est une manière, si vous voulez, c'est la manière dont la subjectivité va gérer son éros.
Oui, c'est ça, c'est un engagement face à soi, en réalité.
C'est d'abord le choix de soi-même, et ça va être le premier engagement fort d'un individu dans son existence, c'est-à-dire cette manière de cette transmutation en fait de l'éros. Mais finalement, autrui dans ce que vous venez de nous dire, qui est très juste, autrui qui résiste, autrui qui n'est pas moi, autrui dont je ne suis pas propriétaire, mais dont je suis responsable. Quand est-ce qu'il va apparaître dans la pensée de Kierkegaard? Eh bien, il va apparaître dans sa vie, c'est-à-dire c'est en ne se mariant pas que Régine va apparaître sur la scène de la philosophie. C'est-à-dire c'est à ce moment-là, quand il va revenir dans son journal intime en particulier, c'est quand il va revenir sur les raisons qui l'ont amené justement à ne pas se marier, que tout d'un coup, Régine prend consistance. Qu'on se rend compte que Kierkegaard avait conscience qu'il avait une personne en face de lui-même, qu'il était responsable de la liberté de cette personne et d'une certaine manière du rapport que cette personne avait avec sa propre existence, le propre devenir de cette personne. Et qu'au nom de cela, par respect finalement, pour la liberté de Régine, pour que la vie de Régine soit aussi une existence authentique. Il ne pouvait pas se lier à elle. Et donc, si vous voulez, autrui qu'on attendait dans une justification du mariage, dans une espèce de mise en scène du mariage, c'est dans l'échec du mariage qu'autrui apparaît. Et je pense que la pensée de Kierkegaard, c'est là où c'est une pensée qui est très difficile. Mmh. Parce que c'est une pensée où tout va de quinconce. Tout est disposé en fait de quinconce. Et donc, on aurait aimé se suffire finalement de l'éloge du juge Willem. Et j'aurais été, que finalement ça aurait été plus facile pour moi de vous faire un éloge du mariage en mettant mes pas dans les pas du juge et en vous racontant, vous voilà, que tous les matins c'est magnifique, et tout le matin où c'est nouveau. Et pour autant, on se rend compte que c'est dans d'autres endroits de l'œuvre où finalement de manière presque négative, que la question véritable de la relation à autrui est posée dans tout ce qu'elle a de plus critique.
Parce qu'il faut préciser qu'autrui, dans ce cas, n'est pas forcément un être humain en chair et en os. Vous l'avez bien dit, Régine devient un personnage, en fait. Enfin, vous n'avez pas employé ce terme, mais elle devient un personnage philosophique qui prend vraiment de la consistance dès lors qu'il renonce aux fiançailles et qu'il ne cesse de raconter ce qui s'est passé tout au long de sa vie. En réalité, ça reste un modèle qui structure sa pensée future. De même, cet autrui, finalement, cet ailleurs, cet endroit où nous pouvons exprimer librement l'amour que nous voulons, que nous choisissons d'exprimer, eh bien, ce sera à la fois à l'intérieur de nous-mêmes et en dehors de nous-mêmes. Il porte un nom, cet autrui, c'est Dieu.
Et on passe à un autre stade. Et c'est là également où l'éthique montre ses limites. L'éthique est conscience de ses limites, dans la forme de la faute, qui est une catégorie très importante, parce que pour la pensée morale, Kierkegaard va justement montrer qu'il ne suffit pas de penser des principes moraux, il ne suffit pas pour être un être moral, d'une certaine manière, d'en avoir une juste vue, c'est-à-dire il suffirait d'avoir la vision absolue de mon impératif catégorique pour me sentir véritablement être moral, et peu importe finalement ce qui va se passer dans la vie réelle.
La morale de l'intention.
Voilà. Quoi. La question de Kierkegaard, c'est qu'est-ce que c'est qu'une existence morale ? C'est-à-dire comment la moralité est véritablement vécue ? Et il va montrer que la grande difficulté de l'éthique, c'est que nous arrivons toujours en retard. La faute, c'est une catégorie en fait du temps. Au moment même où nous allons nous tourner vers le bien, il est déjà trop tard. C'est vrai que le discours moral quotidien que nous entendons autour de nous, est rempli de « je suis arrivé trop tard ». Je n'étais pas là. Je ne le savais pas. Je l'ai su trop tard. On peut dire que l'échec de l'éthique tient dans ces deux mots, trop tard. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, avec toute la meilleure volonté du monde, on est toujours en retard par rapport à ce que l'on aurait dû faire. Et ça, l'éthique est marquée déjà par cette catégorie de la faute. Mais c'est pas suffisant encore. C'est-à-dire que la catégorie de la faute, c'est simplement, on va dire, une incapacité pour le sujet d'être à chaque instant là où il devrait être. Ce que Kierkegaard va découvrir, et c'est le christianisme qui le lui révèle, c'est que au-delà de la faute, il y a peut-être une blessure encore plus grave de notre identité. Et là, on passe de la faute à la catégorie du péché.
Du péché.
C'est-à-dire, c'est pas seulement que je suis en retard. C'est que je suis un être blessé. C'est-à-dire, je suis un être profondément incapable. Incapable par moi-même d'aller au bout de mes choix, incapable par moi-même d'accomplir mon existence. Et s'il y a amour, quand on passe au troisième stade, donc après l'esthétique, après l'éthique, quand on bascule dans le stade religieux, eh bien ça va être un amour qui également, de même que la question c'était de savoir comment la passion pouvait ne jamais rien perdre de son intensité, c'est on va basculer dans un amour encore plus paradoxal, encore plus difficile, encore plus éloigné de toutes les conceptions sentimentales qu'on pourrait en fait avoir de l'amour. Et cet amour-là, qui est l'amour chrétien, n'est plus du tout désir. Autant au niveau de l'éthique, on avait cette adéquation du désir et du devoir. C'est un amour, finalement, qui n'est que la réponse à un appel que j'entends de l'extérieur. C'est-à-dire, je suis convoqué par une voix qui me dit « tu dois ». C'est-à-dire, c'est cette obligation. Alors même que je ne suis pas capable de répondre à cette obligation, je le fais quand même, j'y vais quand même. Voilà, c'est le mystère, en fin de compte, de cet amour qui n'est plus que devoir.
Mais qui reste amour sous une forme assez étrange, qui reste amour pour autre chose, amour pour ce qu'il nomme Dieu, parce que finalement c'est un nom aussi. Bien sûr, il a une éducation chrétienne, c'est très important pour lui, même s'il il est très très dur envers l'Église de son temps. Quand on vous écoute, Philippe Chevalier, alors vous êtes aujourd'hui porte-parole de Kierkegaard, hein, donc c'est à vous de l'expliquer ou de le justifier. On se demande si finalement le fait de se tourner vers Dieu n'est pas une manière de... n'est pas un peu une fuite quand même hors de l'existence qui est insatisfaisante au stade esthétique, qui est insatisfaisante au stade éthique, cette impossibilité de vraiment rencontrer autrui quand en fait c'est toujours face à soi-même que l'on prend des décisions. Dire que nous sommes finalement... dans la vérité, dans l'amour, comme nous sommes avec Dieu, quand nous réalisons que Dieu est à l'intérieur de nous, dans cette intimité, on va entendre un texte qui le décrit très bien. Est-ce que de même que le Johannes, le narrateur du journal Un séducteur, peut quand même faire preuve de mauvaise foi parfois, on se pose la question, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose aussi de l'ordre qui peut soulever un doute, un soupçon chez le lecteur en disant, mais là, est-ce que c'est vraiment la vie authentique pour lui? Est-ce que ce n'est pas une manière de s'accommoder de son tempérament et de tout simplement de la difficulté d'exister?
Il n'y a aucune trace chez Kierkegaard d'apologétique. Donc à aucun moment, il va chercher à convaincre son lecteur qu'il serait mieux, qu'il serait préférable pour lui de devenir chrétien. Il essaie de comprendre la logique interne, finalement, de chaque existence. Et il va montrer que à son siècle, le 19e siècle, l'être chrétien, l'existence chrétienne, a été complètement embourbée, mélangée avec des choses qui n'ont rien à voir. Et l'intérêt pour un philosophe de s'intéresser à cette logique chrétienne de l'existence, je crois que c'est de découvrir d'autres possibilités inouïes d'existence que nous n'aurions pas pu penser par nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est le paradoxe absolu de ce Dieu qui s'est fait homme, de ce Christ, de ce Dieu qui meurt sur une croix, et de cet amour, justement, qui par-delà, et qui au-delà même de tout amour-sentiment, au-delà de la passion sensible, et au-delà même de l'éthique, peut être un amour qui peut même, aux yeux du monde, passer pour de la haine. C'est-à-dire qui va penser l'amour jusque-là. Il y a une forme d'amour qui a perdu même jusqu'à la vraisemblance, qui a perdu même jusqu'à l'apparence de l'amour. Et je pense, quand on est penseur véritablement de l'existence morale, et j'irai même plus loin, penseur par exemple de la politique, penser qu'il y a une forme véritable, une forme authentique de l'amour qui ne ressemble plus à l'image commune que nous avons de l'amour. Ça, c'est quelque chose que Kierkegaard nous apprend. Et au stade religieux, il y a ce livre magnifique, Les œuvres de l'amour, où véritablement, il y a une pensée paradoxale de l'amour, qui est l'amour qui passe pour de la haine. L'amour pour l'ennemi aussi, qui est une forme aussi d'amour qui est portée à un niveau d'intensité absolument incroyable, inouï. L'amour de l'ennemi.
Donc l'amour contradictoire, l'amour
Dieu
absurde.
Dieu sait que récemment, pour parler de l'actualité récente, quand je ne sais plus quel homme politique s'est permis de dire qu'il avait une pensée pour le père d'un terroriste qui avait été tué par la police, le réflexe raisonnable, on veut dire naturel, va être d'être choqué. Mais quand on lit Kierkegaard, on n'est plus choqué, on est interrogé, peut-être on est bousculé. Mais on se dit qu'il peut y avoir aussi une forme d'amour qui va jusque-là.
Ne pas pleurer, ne pas juger, mais comprendre, c'est Spinoza qui le dit, et qui identifie aussi l'amour.
Et penser à la tristesse d'un père.
Et la compréhension.
Même si, voilà, c'est... nous pouvons être amenés à aimer jusque-là. Or, la vie sociale, justement, peut nous dire que ce n'est pas souhaitable, que ce n'est pas bien, que c'est même immoral, que c'est même choquant d'aimer aussi loin que cela. Donc, pouvoir penser la possibilité de l'amour aussi loin que Kierkegaard nous amène à la pensée, je pense que c'est ça l'intérêt pour la pensée morale et pour la pensée politique du stade religieux chez Kierkegaard. C'est de nous bousculer, voire de nous choquer.
Cette expérience de pensée, c'en est une, on peut la faire ensemble. Voici comment Kierkegaard la décrit dans ce texte « Vie et règne de l'amour ». Vous avez proposé une autre traduction, je crois.
Les œuvres de l'amour.
Voilà, les œuvres de l'amour, 1847, interprété par Yvan Morane.
La vie secrète de l'amour se déroule au plus intime de nous-mêmes, insondable, et par là en une insondable harmonie avec la totalité de l'existence. De même que le lac immobile a sa cause première dans une source cachée à l'œil des hommes, de même l'amour de l'homme a sa cause première dans l'amour de Dieu, et celui-ci est une cause plus profonde encore. S'il n'existait pas de source dans les profondeurs, si Dieu n'était pas amour, il n'existerait pas plus de lac immobile que d'amour en l'homme. De même que le lac immobile t'invite bien à le contempler, mais que ses profondeurs ténébreuses, en se réfléchissant à la surface, se cachent en même temps à l'œil, de même, l'origine mystérieuse de notre amour dans l'amour de Dieu nous interdit de pénétrer en ses profondeurs. Quand tu t'imagines les voir, c'est que la surface miroitante des eaux t'abuse en te faisant croire qu'elle en est le fond, alors qu'elle recouvre au contraire le fond, lequel est situé bien au-dessous. Figure-toi un tiroir secret dans une cassette. Pour empêcher qu'on ne le découvre, on l'a muni d'un couvercle ingénieux qui possède exactement la même apparence que le fond de la cassette. Il en est de même du fond primitif qui reste sous-jacent à toute chose. Ce qui nous donne l'illusion trompeuse d'être le fond de la profondeur ne fait que masquer le plus profond de la profondeur. Ainsi, la vie de l'amour est cachée, mais sa vie cachée est en elle-même mouvement et recèle en elle l'éternité.
Chacun cache une source secrète en soi, Philippe Chevalier, que l'autre cherche à découvrir quand il tombe amoureux de cette personne. Et ce que nous dit Kierkegaard, c'est qu'en fait, l'amour en question est toujours celui de l'absolu. C'est ce qui hante Kierkegaard toute sa vie, c'est faire se rejoindre l'instant et l'éternité, le particulier et l'absolu.
Absolument, et dans ce texte magnifique des œuvres de l'amour, on a peut-être cette troisième figure limite en fait de l'amour. On a parlé de l'amour des ennemis, on a parlé de l'amour qui se donne sous les apparences de son contraire, la haine. Et je dirais la troisième figure limite, c'est l'amour qui n'est que secret. ce qui remet en question tout ce qu'on a dit autour de l'éthique et du mariage. Qu'est-ce que c'est qu'un amour qui serait essentiellement secret dans un mariage où il est censé être tous les matins exprimé? Qu'est-ce que serait un amour qui ne s'exprime pas? Et bien pour autant, il y a une forme essentielle de l'amour qui est essentiellement secret, caché, qui fait justement que l'amour pensé à ce niveau-là, avec cette intensité-là, et en même temps c'est une intensité qui s'enroule sur elle-même d'une certaine manière, puisqu'elle ne se manifeste pas, est inadéquate à toute représentation sociale.
Et donc nous pouvons vivre cet amour qu'intérieurement, entre soi et soi, ou entre soi et Dieu. Il n'y a aucune communication possible, aucune extériorisation.
C'est peut-être l'amour infini que Kierkegaard a porté toute sa vie à Régine. Il a rompu ses fiançailles, mais jusqu'au bout, il y a une forme très belle de fidélité silencieuse, de fidélité dont son journal porte maintes et maintes traces, dont son œuvre porte trace, mais de manière indirecte. Et c'est peut-être justement ce secret que de l'amour pour Régine qui se dit dans ce texte magnifique. Et on est effectivement au-delà de l'amour sensible.
On va se quitter en écoutant une chanson qui va nous renvoyer au stade esthétique de l'existence, esthétique au sens fort du terme, et pas simplement dans le sens kierkegaardien, pour faire un pont assez inattendu, mais bien dans le sujet du jour, avec une autre partie de votre travail, Philippe Chevalier, écoutez.
Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme, et crois-moi plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour.
Et oui, Philippe Chevalier, vous n'êtes pas seulement l'auteur d'Être Soi, actualité de Søren Kierkegaard aux émissions Nouvelle François Bourin, mais aussi de la chanson exactement L'art difficile de Claude François aux éditions Puf. Claude François qui, dans cette chanson qui fait danser l'intégralité de la régie derrière la vitre, fait peut-être à sa manière les mouvements et chante le Don Juan moderne, le Johannes contemporain. À vous de juger, chers auditeurs.
Pour le pire et le meilleur, mais tu tiendras là le vrai bonheur. Aux yeux de ton cœur, elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie de Kierkegaard à Claude François et à Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient vous présenter son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez de l'actualité liée à la philosophie. Aujourd'hui, c'est un livre énorme que je vois sur la table.
Oui, oui, c'est ça, c'est un projet monumental, une somme, une odyssée humaine et intellectuelle, comme l'annonce la maison d'édition Les Arènes, Europa, notre histoire. Presque 1400 pages de contributions proposées par 109 historiens et intellectuels du monde entier pour retracer l'histoire de l'Europe qui nous marque encore aujourd'hui, la preuve jeudi dernier dans le discours de notre chef d'État à Athènes.
Je vois par votre présence, notre présence ce soir, la reconnaissance de l'amitié profonde et séculaire qui lie la Grèce et la France. Car peu de nations ont, comme les nôtres, transmis et hérité en quelque sorte des valeurs qui ont fait et qui font notre Europe. Peu de nations ont intégré si intimement leur propre culture et leur identité. Alors oui, ces liens qui nous unissent, ce sont ceux de la liberté, des droits de l'homme, des valeurs qui ont fait notre Europe. et qu'aucune vicissitude de l'histoire n'a pu dénoncer. Je ne saurais cependant me limiter à l'émotion, si vive soit-elle, que procurent ces lieux de mémoire. Et je veux plutôt me mettre à leur écoute. Parce que ces lieux nous obligent. Puisque c'est ici que fut inventée la forme moderne de l'État. Ici que cette cité d'Athènes construisit patiemment par la souveraineté du peuple, la souveraineté de son destin. Nous devons nous demander sans complaisance. Qu'avons-nous fait, nous, Européens ?
Oui, qu'avons-nous fait, nous, Européens, de l'État, de la démocratie, de la souveraineté, de tous ces concepts inventés, formés dès la Grèce antique ? C'est bien la question qui se pose aussi à travers ces multiples articles, à travers cet ouvrage qui dessine donc une histoire européenne encore vive, à travers ces événements historiques, ces récits imaginaires et sa mémoire. Mais il y a peut-être une autre question qui apparaît, plus fondamentale, non pas qu'avons-nous fait, mais de quoi sommes-nous faits, nous, Européens ? Qui sommes-nous, nous, Européens ? Car c'est bien aussi cette question de l'identité qui mobilise les penseurs de l'Europe et bien sûr tous ceux qui l'ont chantée.
Les dieux avaient pris place à l'assemblée, et parmi eux, celui qui tonne dans le ciel, Zeus tout-puissant. Athéna leur contait les angoisses d'Ulysse. Ô maître souverain, Zeus mon père, quand je pense à Ulysse, mon cœur se fend, l'infortuné. Le voilà dans une île à souffrir de cruels tourments, dans la demeure de la nymphe Calypso, la fille du féroce Atlas qui connaît les abîmes de la mer et qui porte à lui seul les colonnes puissantes par lesquelles terre et ciel sont séparés. C'est elle qui le retient contre son gré, et ne cesse de l'assiéger d'insidieuses litanies pour qu'il oublie Ithac. Mais Ulysse, rêvant de revoir son sol natal, voudrait mourir. Il ne peut regagner sa patrie, car il n'a ni vaisseau à rames, ni marin qui puisse l'emmener sur le dos énorme des eaux.
Kant, Habermas ou encore Paul Valéry, Romain Gary, et ici, dans cet ouvrage, Luther, Léonard de Vinci, Erasme et même Carmen, autant de figures qui ont pensé ou chanté l'Europe depuis Homère et l'Odyssée d'Ulysse, dont on vient d'entendre un extrait, à travers les territoires, mais avec des mots plutôt qu'avec des essences rigides. Mais voilà, ces discours, théories ou récits que l'on prône contre l'essentialisation suffisent-ils à façonner l'identité européenne ? Peut-on retracer l'identité de lieux, de peuples, de pays, de politiques à travers des mots et à alors, quel type d'identité ? Bien, dans cet ouvrage, la question de l'identité se pose aussi en termes historiques et en termes de récits. Est-elle plurielle ou singulière ? Comment se raconte-t-elle ? Comment continuer à l'écrire ? Eh bien, c'est ce que tentent ces 149 articles multiples, variés et vivants.
Ça donne envie, Géraldine, mais il faut avoir un petit peu de temps. Hein. 149 articles et un beau livre
imposant.
Et 1400 imposant.
Pages. Alors après, on peut piocher. C'est plein de contributions très intéressantes sur les héros comme Homère, Ulysse, évidemment. Ou alors, on peut retracer ça à travers des événements historiques ou la mémoire. C'est un très beau livre. Ça s'appelle bon. Europa, notre histoire. C'est sous la direction d'Étienne François et Thomas Serrier. Et c'est paru aux éditions Les Arènes.
Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à vous, Philippe Chevalier, d'être venu nous parler de Kierkegaard aujourd'hui.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir de discuter avec vous. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Pauline Vermeuren, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Bruno Gagnère-Fontani qui était la prise de son aujourd'hui, Mathieu Conquet qui est derrière la vitre que j'ai plaisir à saluer. Demain, suite et fin des questions existentielles de Søren Kierkegaard, ce sera le philosophe Alain Cugnot qui viendra vous dire comment Kierkegaard peut nous aider à tromper le désespoir. Mais oui. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Et sur le site internet des Chemins de la Philosophie, vous trouverez toutes les informations musicales, cinématographiques, bibliographiques concernant l'émission du jour. Et vous pourrez surtout réécouter l'émission en ligne ou même la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. À demain donc, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.